Merci encore, Pasteur Gély, pour ton accueil dans ton Église. Bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre. J'espère aussi que personne n'a mal aux côtes, hein, parce que vous êtes un peu cogné les côtes hier matin. Et puis j'espère aussi que vous avez préparé votre mot d'amour. Les parents pour les enfants pour les parents, les conjoints, les amoureux, et que vous en avez laissé dans la boîte et que vous en laisserez, et qu'on pourra ainsi s'édifier par ces belles déclarations que nous allons sélectionner. L'Église adventiste du septième jour offre des programmes de ce genre afin d'aider la population, afin d'aider les frères et sœurs. Ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement la prêche, mais on veut parvenir à toucher la vie réelle. Parce que le salut, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. On n'est pas sur un petit nuage. Quand on est avec ses problèmes, eh bien on est bien avec ses problèmes. La parole de Dieu, eh bien, descend profondément et donne des outils, des moyens pour s'en sortir. Amen. C'est merveilleux cela, ça c'est l'Église adventiste. C'est pour cela que ces causeries, ce soir ce sera une présentation, ce ne sera pas une prédication, ce sera un exposé, afin que nous puissions comprendre la réalité de la famille antillaise et voir pourquoi aujourd'hui nous avons certaines difficultés, certaines carences, et si nous ne savons pas quelle est l'étiologie, quelles sont les causes du problème, on ne saura pas quel médicament apporter. Et voilà pourquoi nous prendrons le temps. Donc, ce soir en particulier, je compte sur votre patience pour me permettre de développer avec vous en deux parties cette présentation. Premièrement, un aspect sociologique sur la famille chrétienne, et ensuite, en comparaison, ce que la Bible propose. Ça vous va? Donc, ce soir, nous serons ensemble pour un petit moment, mais relaxez-vous. Asseyez-vous confortablement à votre place et ensemble, nous ferons ce petit parcours. Je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de tristesse ce midi en passant près de la boutique près de chez moi et de voir la une du quotidien des Antilles quand j'ai vu qu'un frère a tué son jumeau, c'est cela ? C'est vraiment des choses qui peinent, ce sont vraiment des choses qui... c'est trop. Voyez, et c'est pour cela que les chrétiens, toutes religions confondues, mais les chrétiens adventistes doivent rapidement faire connaître qui est Jésus, quelles sont les solutions, comment on doit vivre pour éviter de tels drames. Ce soir, la famille, de la plantation à la libération, une véritable révolution. En ce qui concerne la famille, il faut être au clair aujourd'hui sur son mode de fonctionnement, sur les ressorts qui la font fonctionner. Comme je le disais, la vie chrétienne, la vie spirituelle, personnelle, n'est pas une simple vue de l'esprit. Il ne s'agit pas de tout spiritualiser, simplement réciter des versets et chanter des cantiques. Il faut se rendre compte que la façon que nous avons de traduire le vécu familial, d'exprimer nos relations les uns envers les autres dans la famille, entre le mari, la femme, les parents, les enfants, nos émotions, la façon dont nous réagissons les uns envers les autres, eh bien, dans la famille, va conditionner ce qui va se passer dans la société. S'il est vrai que le visiteur de passage, quand il est aux Antilles, après avoir passé quelques jours parmi nous, eh bien, a la sensation d'avoir trempé dans un milieu pour l'ensemble jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire, malgré ses difficultés, un milieu non pas seulement doudouiste, mais positif, chaleureux et solidaire. Cela est dû au fait que le territoire est petit. La Martinique, c'est un petit confetti, et tout réagit sur tout et inversement. Lors du crash aérien du 16 août 2006, on s'en est rendu compte. Parents, amis et alliés, on sait ce que ça veut dire ici. Même si les veillées mortuaires ne se font plus autour de M. Médouze, autour de son écric et crac. On est obligé dans cette Martinique, dans ce petit territoire, de serrer les coudes. On est ici sur notre belle terre, la belle Madinina, comme sur un paquebot où la solidarité naturelle est obligatoire et doit se mettre en place. Vivre ici, à la Martinique, aux Antilles, ce n'est pas comme vivre sur le grand continent ou dans les grands espaces où si votre voisin vous chagrine, vous prenez votre caravane et vous allez quelques kilomètres plus loin vous établir sur quelques arpents de terre. Ici, nous sommes obligés de vivre les uns auprès des autres, les uns avec les autres. Et il faut reconnaître que nous vivons, malgré tout, une sorte de miracle culturel, puisque différentes ethnies, différentes religions parviennent à se côtoyer, parfois se rassembler et se mélanger et à donner cette culture créole constituée par l'apport des uns et des autres. Ce n'est pas toujours, bien sûr, sans friction. Cela ne se fait pas toujours sans heurts. Mais c'est un long apprentissage, parfois dans la souffrance, dans les concessions, par le travail opéré non seulement par l'Évangile qui nous aide à vivre ensemble, mais par les institutions politiques, par le mixeur qui était autrefois le service militaire et celui qui est encore l'école jusqu'à un certain point où se sont retrouvés côte à côte des personnes qui autrement n'auraient rien à faire ensemble. Autrement dit, pour envisager la famille aujourd'hui et les soins à y apporter dans l'Église, il est nécessaire de faire un bref rappel de la genèse des familles antillaises et de la famille martiniquaise. Pour la majorité des familles issues de peuplements majoritairement de souche africaine, l'esclavage a pesé lourdement sur la constitution de la société, en particulier de la famille. Et quand je parle de la constitution de la famille chrétienne, celle qui apporte des bénédictions, celle que nous voulons mettre en place, je ne présente pas la famille occidentale en modèle absolu. Mais ne soyons point aveugles, chauvins, partisans, pour ne pas voir que nos familles ont eu comme genèse une origine difficile qui la marque encore aujourd'hui, à son insu parfois. Déjà privés de liberté, les individus ne pouvaient se choisir librement. Ils appartenaient au maître qui usait de son bon plaisir sur les uns et sur les autres. Quoi qu'il en soit des habitudes, des mœurs et des traditions de ces peuples avant leur convoyage forcé sur les bateaux négriers, avant qu'on leur eût payé la croisière alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne, une fois arrivés sur les terres à sucre, ils étaient mis au travail et ce qui comptait, c'était le rendement économique. Différentes politiques ont été menées dans le milieu de la plantation, car ce qui primait, c'était ni l'affectif, ni les considérations morales et religieuses, mais bien le rendement jusqu'à la corde de ces êtres sans défense, taillables et corvéables à merci. Tantôt, ce fut la politique de la séparation des entités familiales, à qui l'on n'accordait aucune stabilité pour créer un lien matrimonial stable, ni la possibilité de l'attachement entre l'homme et la femme, ni même toujours entre la mère et l'enfant. D'autrefois, la politique menée par les colons est différente. Elle consistait parfois à ancrer la main-d'œuvre sur le terrain pour créer un attachement à la terre. Non pas qu'il y eût une avancée sur le domaine moral et affectif, mais toujours avec la perspective du rendement, à savoir une plus grande motivation des esclaves, parce que plus grand est la motivation, plus grand est le rendement, plus grande est la stabilité, meilleure est la reproduction sur place, et donc un accroissement de la main-d'œuvre. Il faut reconnaître que l'Église majoritaire à l'époque a tenté un type d'évangélisation de ces pratiques en plaidant pour l'institution du mariage, mais c'était sans compter sur le réalisme et l'âpreté au gain des maîtres qui faisaient passer avant les considérations d'ordre moral et religieuses et affectives leur intérêt économique, produire toujours plus. Dans la plantation, fonctionne une main-d'œuvre esclave qui ne s'appartient pas, qui n'a pas la liberté du choix de sa sexualité ni de ses liens affectifs. Les conséquences les plus évidentes d'un système d'exploitation humain est bien sûr la dénaturation, la dévaluation, l'empêchement de mener une existence vraiment humaine. Cela a créé bien sûr des distorsions qui perdurent, qui continuent jusqu'à aujourd'hui et qui plombent la capacité de bon nombre de personnes aujourd'hui encore influencées de façon inconsciente par ces modèles socioculturels de fonctionnement. Cela a contribué à produire ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine instabilité masculine, puisque les hommes subissaient une forme de castration symbolique, puisque ne pouvant pas s'affirmer devant les femmes, qui étaient toutes de fait les femmes du maître, et lui, l'esclave, ne pouvait en jouir que comme récompense de son travail, s'il travaillait bien. Donc une forme de prostitution forcée. Ou alors, il avait droit aux femmes s'il avait des capacités reproductives avérées, c'est-à-dire s'il était un bon reproducteur, c'est-à-dire on le réduisait à n'être qu'un étalon. Cela laisse des traces. L'homme, jusqu'à aujourd'hui, de façon générale, est davantage un géniteur qu'un père, ne pouvant s'attacher à la femme ni aux enfants. Et cela a développé une agressivité larvée entre l'homme et la femme. Ça a été à la genèse d'un contentieux qui parasite encore aujourd'hui le rapport homme-femme. Pourquoi ? La femme voit en l'homme, à cause des conditions dans lesquelles on l'a amené à vivre, ce qu'on peut appeler un chien savane. Et l'homme voit dans la femme l'alliée objective du maître, dont elle recherche les faveurs, au lieu d'être de son côté pour la lutte dans cette situation difficile d'esclavage. Chers amis, il faut se remémorer ces faits de l'histoire, de notre histoire, pour tenter de comprendre ce qui nous arrive et de quoi nous souffrons et comment guérir. Ce n'est pas parce que nous sommes au temple ou dans les temples et dans les églises que tout ça n'existe pas. Les hommes sont frustrés de voir la femme s'offrir au maître, la femme elle-même, bon gré mal gré, obligée d'être disponible pour le colon et par stratégie de survie, d'aller vers le plus avantageux, c'est-à-dire de porter en son sein les œuvres du maître parce que l'enfant sortirait sauvé de par la couleur de sa peau, plutôt que de rester avec les compagnons d'infortune dans le noir, c'est le cas de le dire. Alors, l'un et l'autre sont dans la souffrance, mais se font reproche à l'autre de faits et d'attitudes qui sont en fait les conséquences asymétriques du système pervers dans lequel ils sont tous les deux enchaînés, chacun souffrant selon le destin de son sexe. L'homme amené à finalement perdre sa virilité, sa masculinité, le pouvoir de décider, et la femme obligée de se donner, et les deux incapables d'avoir une relation de confiance équilibrée. Cela a donné le type d'homme violent, les géniteurs du genre fire and forget, tire et oublie, irresponsable, toujours disponible pour la petite récompense. Donc ce phénomène d'aujourd'hui a ses racines. Alors je voudrais ici, et pardonner le langage, c'est vrai qu'il est cru, mais vous le trouverez dans le roman D'eau douce de Fabienne Canor, dans son roman qu'elle a publié. Voilà sa conception de l'homme, tel que, en tant qu'antillaise, c'est un regard de l'intérieur, telle qu'elle perçoit l'homme généralement. Elle dit ceci, c'est une citation, « Est nègre, l'homme capable de coquer 10 femmes à la minute, de fabriquer des mensonges 100 fois plus gros que lui, de te voler ta vertu sans prendre de plaisir. Est nègre le dorlis, le chien savane. Est nègre l'homme qui te dit A et pense B, qui te jure B et pense A. L'homme qui remet, l'homme qui repart, qui disparaît sans scrupule, revient sans commentaire. Est nègre celui qui te viole du regard, te fait 5 gosses dans le dos, t'en fait voir de toutes les couleurs, te déclare que c'est lui l'homme et que tant que cela durera, le nègre durera. » Quelle vision pessimiste de l'autre. Je vous invite à approfondir cette question en considérant l'ouvrage que j'ai publié en coécriture le mois dernier et qui développe cette affaire dans l'ouvrage intitulé « L'Église, les enfants et les jeunes ». Si ça vous intéresse, vous pourrez en trouver, en savoir un peu plus. La femme elle-même, pour se protéger, devait user de stratégies. Nous parlons de la plantation, n'est-ce pas, de l'univers concentrationnaire de la plantation, dans un jeu permanent consistant à s'offrir ou à se refuser. En fait, se positionnant selon le mieux-disant, au plus offrant, puisqu'elle ne pouvait compter sur un compagnon fixe et stable. Elle a appris à ne devoir compter que sur elle-même, et l'analyse des familles ainsi constituées, qu'on appelle des familles matrifocales, où la mère a une place prépondérante, a créé le type de femme qu'on semble vénérer, parce que symbole de la résistance des femmes à l'oppression du système esclavagiste, de la plantation, résistance à la situation, au sort que lui réservait le monde des hommes, cela a donné l'apparition de la femme dite femme potomitan, posture de la femme debout qui lui permet de survivre tout en se protégeant, mais tout en protégeant ses enfants, mais posture qui cache une très grande souffrance. Chez cette femme qui doit trouver des énergies au sein de grandes frustrations, d'une grande solitude, et dans un tel contexte, les enfants qui naissent se retrouvent vite à reproduire, malheureusement, le même schéma. Donc, voilà, camper les éléments constitutifs de la famille antillaise, éléments dont on retrouve la trace encore aujourd'hui. Au sein de ces familles matrifocales structurées autour de la mère, il y a beaucoup de souffrances, nous le disions. Le père géniteur, toujours incertain de sa paternité, n'a pas occasion de grandir avec sa progéniture, avec ses enfants. Il est considéré pour ce qu'il peut offrir en termes d'argent, de cadeaux. Il est comme un visiteur de passage, un touriste. Mais au fond, il a le sentiment amer d'être utilisé pour donner du plaisir ou pour donner des enfants ou servir d'agent économique. Mais il ne bénéficie pas des avantages d'un véritable lien affectif, émotionnel, d'une vraie place. Et ça, c'est un drame qui se vit encore aujourd'hui. Pour faire face à la frustration, cet homme, nous l'avons dit, sera souvent violent, alcoolique, pour s'évader, dans l'obligation de prouver sa force, son autorité, sa virilité, soit en s'imposant auprès de sa compagne, en la dominant par la brutalité, soit en multipliant les conquêtes. La mère, de son côté, doit lutter seule, vivant en réalité une affreuse solitude, et à cause de cela, c'est classique, elle va se rapprocher étroitement et dangereusement de ses enfants, du fils notamment, quand elle peut en avoir un, qui devient sa gloire, son champion, son petit coq. Et il lui sera pratiquement tout pardonné à celui-là. Il sera l'élément de sa revanche. Paradoxalement, pour faire subir aux autres femmes, et on peut s'en étonner, ce qu'elle-même a subi, d'où le fameux « coq moins l'adjé » Maré Poulzot. La fille, elle, aura moins de liberté, moins de privilèges en termes d'évolution dans l'espace, en termes de privilèges par rapport à son frère. Elle sera cependant la confidente, en même temps qu'étroitement surveillée. Il ne faut pas qu'elle fasse, comme on dit, qu'elle fasse, non pas honte, mais ronte, n'est-ce pas ? Et donc, il faudra freiner ses ardeurs sexuelles qui devront être inhibées et le plus longtemps possible retarder l'éveil à cela. Il ne faut pas qu'elle devienne chaude. Alors on va tout faire pour la refroidir. Les enfants dans un tel système matrifocal souvent sont étouffés car inconsciemment, la mère attend que les enfants comblent ses carences émotionnelles, affectives, en même temps qu'elle les rudoie. Qu'elle a souvent parfois de la difficulté à leur manifester sa tendresse. Non pas qu'elle soit méchante, non pas qu'elle soit violente par essence, mais les conditions de vie, ses carences affectives et émotionnelles, l'empêchent de se libérer pour pouvoir prendre en charge l'enfant, sa progéniture. Trop souvent aussi parce que cet enfant lui rappelle les circonstances douloureuses dans lesquelles elle a eu cet enfant. Et les enfants eux-mêmes se retrouvent dans des rapports conflictuels inhérents à ce type de fratrie qui s'organise dans un tel contexte. Rivalité du fait des filiations diverses, parfois non avouées. Qui est l'enfant de qui ? Allez parfois savoir. Qui aura le plus de légitimité ? L'enfant de l'homme qui restera le plus longtemps aux côtés de la mère dans le foyer ou l'enfant de l'amour ? Avec une donnée supplémentaire, c'est qu'en fonction de la couleur de la peau de l'enfant, son statut changera. Les enfants vivront de véritables injustices, selon que l'on soit l'enfant qui aura les cheveux les plus plats, le teint le plus clair, le nez le plus aquilin, sera souvent l'enfant le plus chéri, le plus protégé et qui aura par là même le plus de chances d'évolution sociale. S'il est vrai qu'aujourd'hui, ces différentes données, ces différents aspects de notre culture qui caractérisent la famille antillaise se sont quelque peu estompés à la marge, grâce au rôle de l'école, de l'éducation, grâce aux différentes politiques familiales de l'État et particulièrement l'octroi de subventions étatiques prenant le relais et devenant l'État souteneur à la place des hommes qui, eux, auront le bec dans l'eau. Car le fait que l'État s'occupe des femmes, ils ne peuvent toujours pas avoir accès à ces femmes, c'est-à-dire ils ne peuvent pas les dominer, ils restent dans une situation passive, une situation de laisser pour compte. La femme aujourd'hui, avec l'évolution des choses, peut toujours s'en sortir, sans l'homme, indépendamment de lui, et frimer au volant d'une voiture sur l'autoroute, lunettes fumées en plus. Alors que si l'homme a un petit boulot et s'il est au chômage, il prie en ça, il ne fait pas le poids. Tout ça était déjà mis en chanson dès les années 70 avec le fameux tube Akiyaka, l'année de la femme. Ça vous rappelle quelque chose ? Un bon cadence lipso, genre de traîne-pied bien balancé avec Anderson au lead. Faut pas être surpris, c'est la nouvelle femme, travaille toute la journée. Yo décidé pour faire l'armée, grimper poteau là, conduit camion, kembe volant là, voler avion, acheter 4 cinémas, payer restaurant, pendant un temps, n'homme qu'à cuite manger, qu'à garder les bébés. C'était tout simplement avant que Fabius lui-même ne s'interroge en 2007 avec la pique perfide à propos de l'engagement politique de Ségolène et de François Hollande, alors monsieur et madame, et de demander ingénument, mais qui va garder les enfants ? C'est certainement une donnée à prendre en compte dans le cadre, tout ce que nous venons de dire, de la violence faite aux femmes, où l'homme de façon inconsciente, pulsionnelle, prend sa revanche par rapport à toutes les humiliations accumulées et subies. Le système de la plantation a été préjudiciable, néfaste, détruisant le cœur même de ce qui devait être le moyen de relèvement de l'humanité, à savoir la famille. En y plaçant des éléments déstructurants, en empêchant à la famille de devenir ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Et les révolutions entreprises pour amener une évolution de la situation n'ont pas vraiment apporté une solution satisfaisante, puisqu'on expérimente aujourd'hui le mouvement inverse du balancier. C'est à partir de ces données que nous venons d'énoncer qu'il faut penser la famille aujourd'hui, comprendre ses plaies, comprendre ses dysfonctionnements, comprendre ses problèmes. C'est à partir de ces données-là qu'il faut comprendre le travail qu'il y a à faire dans nos familles, dans nos églises et dans la société. Ces quelques rappels sociologiques nous permettent de faire le point, de savoir, de pouvoir analyser ce que nous vivons maintenant à partir du rappel des origines. Le temps a passé, qui semble avoir placé ces choses dans un passé dépassé, mais ne nous leurrons pas, ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas, qu'on n'y pense pas de façon consciente, que ces réalités se sont évanouies ou qu'elles n'existent pas. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont une réelle difficulté à nouer un lien de confiance dans leur couple, de respect mutuel, à vivre un vrai partenariat, une réelle complicité? Ce n'est pas facile, simplement parce que l'homme, de par son éducation, ce qu'il a vécu, suspecte en permanence sa femme de toujours vouloir le tromper. La femme lui échappe et cela le frustre. Il demande alors aux expertes, aux matrones de son clan, diplômées en profilage, de bien ausculter l'enfant sous toutes ses coutures, l'enfant nouveau-né, et il est anxieux, il attend de savoir s'il y a bien du papa dedans. Et quelle délivrance pour lui quand on lui annonce « Mais c'est où même qu'il a ? Fouti qu'à son papaï ?» « Ah, mais où bien travaille, mon fils ?» Et il part content, heureux, même si on vient une fois de plus de le couillonner à vie, parce que comme le stipulait le droit romain, est l'enfant du père celui que la mère désigne. Les hommes, en général, sont toujours en chasse, non pas forcément à cause d'une libido si exceptionnelle que cela. On connaît trop en consultation de sexologie le nombre d'hommes lents à venir et trop rapides à fournir. Mais parce qu'ils se croient obligés, sommés de répondre à toutes les sollicitations qui se présentent, parce que l'éducation leur a presque intimé d'être garde à vous, alors qu'on ne les a pas forcément sonnés, ils se croient obligés d'honorer de leur faveur, et pour rester dans le vocabulaire de la basse-cour, toutes les poulettes qui se pavanent sous peine d'être accusées, injure suprême, d'être un macoumet. Ils se croient donc obligés d'assumer et d'assurer. Il me semble que pour la Bible, la vraie virilité serait plutôt d'avoir la capacité de pouvoir résister à ses pulsions et de pouvoir choisir avec qui on le fait, quand on le fait, comment on le fait, et non pas d'être obligé d'appuyer sur le bouton tir automatique et feu à volonté. Ce serait plutôt halte au feu. En plus, souvent, ça se fait en silence, sans parler, vite fait, mal fait. Pourquoi ? Parce que culpabiliser. L'homme sent bien que ce n'est pas ce qu'il cherche, ce type de rapport. Il aurait préféré la confiance, l'intimité. Et il a du mal à prononcer les mots tendres, les mots d'amour, les mots de l'amour. D'ailleurs, les femmes s'en plaignent énormément Et dans notre Église, le plus souvent, quand on est en consultation, beaucoup trop de femmes se plaignent du silence de l'homme qui est taiseux, qui ne cause pas beaucoup. L'homme a peur des mots de l'amour, il a peur d'être nul dans ce domaine, d'être ridiculisé et de ne pas y arriver. C'est que quand les conditions de l'amour que le Créateur a prévues au départ ne sont pas là, c'est terriblement éprouvant, tant pour la femme que pour l'homme, et encore plus pour l'homme qui ne doit pas défaillir. Qui a dit que le Zouk Love a été inventé pour les hommes qui sont nuls en amour afin de leur donner les mots qu'ils n'arrivent pas à exprimer et qu'on ne leur a pas appris à dire et qu'on leur interdit de dire? Quelle tristesse! Combien de couples ici n'ont pas depuis longtemps eu le privilège de se regarder dans les yeux? On se croise, on se frôle, mais a-t-on le temps encore, prend-on le temps encore de se regarder dans les yeux, de déverser dans l'autre ce qu'on a de recevoir de l'autre? Ou prendre le temps de se caresser longuement, de prendre le temps jusqu'à ce que le désir naisse ou renaisse et que les mots sortent? Messieurs, chers frères, si vous ne faites pas votre job, vous allez donner de l'argent au club, au spa, car vos femmes iront courir, se faire masser. Prenez soin de vos mains. Le bon Dieu les a faites pour donner des caresses. Je n'ai pas dit de ne pas aller travailler et d'avoir des poils dans les mains, ce n'est pas ce que j'ai dit. L'amour, ça ne se devine pas seulement. Cela se dit, cela s'exprime, cela se montre et cela se démontre. Mais à cause d'une certaine éducation que nous avons héritée, nous avons tellement parfois de difficultés à être spontanés, à oser exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on éprouve. Depuis combien de temps n'avez-vous pas, messieurs, massé amoureusement, avec attention, votre partenaire, je dis bien votre épouse, jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans vos bras ou entre vos mains de contentement? Vous allez me dire, ce n'est pas le but recherché, on voudrait au contraire la réveiller pour qu'il y ait de l'action. Pourquoi faire, avez-vous dit? Si vous lui donnez ce bonheur-là, c'est-à-dire de lui montrer que vous êtes capable de ne penser qu'à elle un moment, de lui accorder du temps, si vous vous concentrez un moment sur son plaisir, son bien-être, sa détente, sans impatience, avec douceur, elle en sera tellement heureuse que lorsqu'elle se réveillera, parce qu'elle se réveillera bien un jour, n'ayez crainte, elle sera tellement heureuse qu'elle vous cherchera. Et c'est elle qui va vous courir après, et à ce moment-là, vous avez intérêt à être en forme. Avez-vous pris le temps, ces derniers, de l'admirer, les contours de sa géographie et de l'explorer de nouveau? Une femme en sécurité, une épouse en confiance, comblée par la présence aimante de son mari, par ses paroles gentilles, par ses douces attentions, ne peut que se donner à vous, parce qu'une femme qui aime Dieu, Dieu l'a créée pour aimer et lui a donné tout ce qu'il faut pour ça. Mesdames, mes sœurs, n'ayez aucun complexe. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous puissiez profiter de la vie dans votre couple. La femme chrétienne ne doit pas avoir honte de se perfectionner dans le domaine de l'amour, de façon à ce que son mari n'ait pas même idée d'aller voir ailleurs, car ce n'est pas un péché que de bien aimer et que de bien savoir aimer. Tout comme on se vante de savoir faire un beau gâteau ou de bien faire la cuisine, d'être un cordon bleu, la Bible vous permet d'être un cordon rose. Donc vous devriez pouvoir exceller dans l'art d'aimer, car votre vagin n'est pas un trou ou un cloaque, mais un organe qui peut parler. Ses lèvres peuvent murmurer votre amour, et ceux qui ont mis au théâtre les monologues du vagin le savent. Mais le Cantique des Cantiques le disait bien avant. Et dans nos séminaires réservés aux couples, nous développons ces notions. Et c'est pour cela que nous invitons nos frères et sœurs, les jeunes, à venir dans les séminaires de préparation au mariage, et les personnes déjà en couple, de profiter des séminaires qui sont proposés. C'est encore une idée de la plantation qui a mis dans la tête des gens qu'on faisait mal élevé, parce qu'on aimait. Or, ce qui fait la différence entre la copulation du maître et celle de l'esclave, à qui il refusait le mariage, c'était que l'un le faisait dans les draps blancs et brodés lavés auprès de la rivière par les bras vaillants des lavandières, et que l'autre, lui, l'esclave, le faisait sur la paillasse de sa case, près du parc à cochons où on l'avait assigné à résidence. Mais dans la réalité, c'était les mêmes sensations, l'essentiel étant d'aimer et de s'aimer. Alors libérez-vous de ces préjugés et aimez votre partenaire pour qu'il se souvienne de vous. Et ainsi vous aurez sauvé votre partenaire, vous aurez sauvé votre couple. Le salut de l'autre et le salut de votre couple passe par vous. Et dans ce domaine-là, il ne s'agit pas simplement de chanter des cantiques et d'avoir un livre de psaumes. Nous sommes dans le réalisme de la vie, et ici, il s'agit de sauver votre partenaire de la tyrannie du désir, et ce n'est quand même pas la voisine, ce n'est pas la secrétaire, ce n'est pas la collègue de bureau qui va s'y coller. C'est vous qui êtes à la place prévue par Dieu et que vous avez accepté d'occuper en vous mariant pour sauver l'autre de son besoin, pour lui donner à manger et jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Deux fois par semaine au minimum, il faudra songer à mettre le couvert, mesdames, et plus, et à volonté pour les gourmets et les gourmands. L'essentiel, c'est que chacun mange à sa faim. L'idée la plus intéressante, ce serait peut-être celle du self. C'est pas mal. Mais que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 7, verset 4? Parce que la parole de Dieu a à dire quelque chose ici. Que dit-elle? Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est le mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari, de même que le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps, son corps est à sa femme. En réalité, l'homme antillais est souvent frustré, souvent en doute de sa paternité réelle, il stresse de toujours devoir prouver sa capacité et faire étalage et démonstration de puissance. La femme, elle, vit très mal ce genre de relation. Elle reporte son affection, son amour sur ses enfants, en augmentant les factures de téléphone, en s'épanchant auprès de ses copines, dans ce qu'on appelle les Milan chez nous, parce que personne ne lui parle à la maison, à part passe-moi le savon, où se trouvent les chaussettes, est-ce que tu as pensé en faisant les courses à ramener le jus? Pas étonnant que cela finisse en tension, par des ruptures, chacun son bord, chacun sa vie, chacun ses amis, et puis ça se solde par un divorce. Et au milieu de tout ça, bien sûr, les enfants trinquent, les enfants à qui on ne demande pas leur avis, les adultes ont décidé que l'on peut divorcer de façon civilisée et que finalement, les enfants seront répartis chez papa et chez maman. Ce soir, chers amis, ce que je voudrais vous dire, et c'est là que c'est intéressant, c'est que par rapport à ce tableau que nous venons de brosser des origines de la famille antillaise, des problèmes qui font que ça dysfonctionne et que jusqu'à aujourd'hui, on a des difficultés pour s'harmoniser, vivre ensemble dans la confiance, dans la transparence, dans le partenariat, à cause de tout ce que nous venons de citer, que vous connaissez. L'Évangile propose tout autre chose que le système de la plantation L'Évangile propose même plus qu'une libération, qui ne serait que vivre l'inverse de la même chose. L'Évangile propose une vraie révolution. L'Évangile dénonce ce qui est vécu au sein de la plantation. Dieu n'a jamais voulu cela, la domination de l'homme par un autre être humain. Et il est normal que les êtres opprimés aient cherché à se libérer de ces chaînes physiques et mentales, ce qui les a conduits à se libérer. Mais la Bible voudrait vous dire ce soir, chers amis, que ce n'est pas assez que la libération. Il faut aller au-delà d'une libération de ces schémas destructeurs. Il faut aller vers une cassure nette de la chaîne de reproduction de ces comportements qui sont en réalité mortifères, qui font souffrir ceux qui les vivent et qui les amènent, ce qui est plus grave, à reproduire ces mêmes choses. Ce dont nous parle la parole de Dieu, c'est une révolution. Et pour cela, elle nous propose un mode de fonctionnement que l'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Là, nous trouvons un système de fonctionnement qui a pour but d'organiser les rapports au sein de la famille, de régler la question du conflit permanent, les rapports de force qui se sont institués entre les êtres humains depuis la chute. Depuis que l'homme a péché, il n'arrive pas à s'entendre. C'est la guerre dans la société, mais c'est déjà la guerre, premièrement, dans la famille, au sein du couple, dans la fratrie. Ainsi, la parole de Dieu va proposer un mode de fonctionnement pour rappeler un principe d'organisation, un principe d'autorité. Et c'est ici que je vais vous demander toute votre attention. Après l'exposé que nous venons de faire, ici, je voudrais que nous puissions être vigilants pour bien capter les éléments que nous propose la parole de Dieu pour régler la question de la violence, la question de la rivalité et l'incapacité que nous avons à vivre ensemble. Et pour stopper tous les glissements vers les abus, vers les agressions, la spoliation, vers l'asservissement, vers tout ce qu'on appelle la profitation. Voici le principe de fonctionnement proposé pour la cellule familiale afin de la libérer de toute oppression des conflits de la violence. Je ferai appel à ces versets que nous connaissons et que vous allez immédiatement repérer. À l'homme masculin est remis l'autorité, le commandement, ce qu'on pourrait appeler en termes modernes le leadership, la responsabilité de sa famille, ce qu'on appellera en termes spirituels une prééminence de service. Nous posons donc que la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Immédiatement, il y a nécessité d'expliquer, sans quoi je risque de ne pas pouvoir sortir entier et vivant de cette salle. Chef ici, dans la Bible, signifie celui qui est en première ligne, responsable, qui porte la responsabilité. C'est l'éclaireur, celui qui se place au devant, qui prend les devants. Pas celui qui, lorsqu'il fait nuit et qu'il y a un bruit suspect dans la maison, dit à sa femme, « Va voir !» Donc, quand on analyse bien la situation, être chef de sa famille, être le chef selon Dieu, ce n'est pas un privilège exorbitant. Ce n'est pas un privilège sans responsabilité. Il ne s'agit pas de faire montre d'un pouvoir arbitraire et absolu. Être le chef pour l'homme, il ne s'agit pas de jouer au petit chef. Il ne s'agit pas de se servir, ni d'asservir, mais de servir. L'éclaireur qui va de l'avant, c'est celui qui va de l'avant pour baliser, sécuriser la route, et faire passer le reste de la troupe, comme le chef qui se sacrifie pour ses soldats, comme celui qui endosse la responsabilité après que ses collaborateurs aient, sous ses directives, pris des initiatives, qu'elles se soldent de façon positive ou négative, il endosse. Je ne sais pas si vous percevez la différence avec l'idée que l'on a communément du petit chef qui fait sa loi. Être chef, être responsable dans ces conditions n'est pas un cadeau, n'est pas une partie de plaisir. Il ne s'agit pas de mettre les pieds sous la table. C'est une lourde, extraordinaire responsabilité. Et vous comprenez que ce n'est pas possible pour un homme. Si cet homme, ce chef, n'est pas inféodé à Dieu, dont il doit dépendre directement. Tout le temps que cet homme appelé à être chef sera sous le contrôle divin, tant que cet homme recherchera l'aide de Dieu, sans laquelle il ne peut rien faire, tant que dans son comportement il traduira, il reflétera qui est Dieu, alors il y a des chances, de très fortes chances, de voir sa femme et ses enfants lui obéir et se soumettre à lui. Et la soumission de la femme n'est ni naïve ni servile. Elle ne se soumet pas parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle n'a pas d'intelligence ou qu'elle est un être inférieur, parce qu'elle n'aurait pas le choix. C'est pas sois belle et tais-toi. Elle ne se soumet pas pour devenir moins que rien. Mais c'est dans la compréhension de sa mission, dans l'acceptation de son positionnement voulu par Dieu dans son ordre de création et dans la confiance qu'elle a de cet homme, son mari, qui est un tel chef dont elle admire la sagesse, la prudence et la consécration, que l'envie de servir, que l'envie de collaborer lui viendra tout naturellement. Je vous invite à bien peser ce que je vous dis ce soir. Je le dis sans excitation, je ne prêche pas. J'essaie de vous exposer quelque chose dont on ne parle pas souvent aujourd'hui. Il y a des gens qu'on admire, avec lesquels on se sent en confiance, avec lesquels on souhaite collaborer, pour qui on ferait plus que pour un simple salaire. Il y a des commandants dans l'armée qui ont pu demander des choses impensables à leurs hommes en termes de sacrifice, parce qu'ils inspiraient la motivation et le respect, n'est-ce pas? Avec un tel mari, un chef selon Dieu, qui craint Dieu et qui reçoit sa sagesse de Dieu, un tel chef que la femme peut admirer, qu'on a envie de servir, avec lequel on souhaite collaborer, qu'on voudrait voir réussir, la femme qui craint Dieu va décider, elle n'est pas obligée, elle décide de fonctionner en acceptant, voire en offrant son aide et sa collaboration. C'est une vision des choses que ni le système de la plantation, ni la société actuelle, avec ses mouvements de libération en ce qui concerne le féminisme ou autre, n'a vraiment perçu. Ici, la Bible nous place directement sur le chemin de la révolution, tant pour l'homme que pour la femme. L'homme assumant avec humilité et prière et sagesse un rôle de chef pour le bénéfice de tous, car il reçoit un pouvoir, une autorité pour servir et non pas asservir. Un pouvoir et une autorité qu'il met au service des autres, de sa femme, de ses enfants, et qui va susciter une telle reconnaissance, une telle admiration chez l'épouse, chez la femme, que cette attitude de grandeur, de noblesse dans l'exercice de cette prééminence de service va l'émouvoir, va toucher son cœur et susciter l'amour, le respect et l'amener à vouloir être l'aide, la partenaire, l'inspiratrice, celle qui se tient aux côtés de lui avec cet homme-là pour l'aider à devenir encore meilleur. Car c'est le rôle de la femme de stimuler son homme à grandir et à devenir meilleur. Il se produit dans le couple alors, loin de l'image de la plantation que nous avons brossée il y a un instant, une interaction spéciale, un feedback permanent qui fait que l'homme est stimulé à devenir toujours un meilleur capitaine, un meilleur chef, et la femme a toujours davantage envie d'être à ses côtés pour l'aider en lui offrant toute l'énergie et la force pour avancer. Ils forment alors un tandem. qui se retrouvent malgré les missions qui sont différentes. L'homme avec la prééminence de service en tant que chef éclaireur, celui qui endosse les responsabilités de sa famille, celui qui en répond, et la femme qui l'aide, qui collabore et dont l'aide. Et le terme ici utilisé pour la femme en tant qu'aide est le même terme qui est utilisé dans les psaumes pour dire « Dieu est mon aide ». Psaume 54, verset 4. Vous comprenez que quand Dieu demande à la femme de se soumettre et d'être l'aide, il n'y a rien de dévalorisant, rien d'insultant, ça n'a rien de servile. Ça la place au même rang que Dieu qui aide l'humanité. De même que Dieu nous aide, de même que Dieu vient à notre secours, de même que Dieu est à nos côtés, c'est le même rôle que la femme joue à côté de l'homme. Est-ce que vous voyez là un problème ? Est-ce que vous voyez quelque chose de dévalorisant là ? Ils forment alors, l'homme et la femme, comme je l'ai dit, un tandem, où malgré l'apparente différence de position et de statut, ils se retrouvent, l'homme et la femme, à la même enseigne, chacun dans le respect de ce qu'il est, tel qu'il a été créé, respectant sa physiologie et respectant sa psychologie. Un homme et une femme, car Dieu respecte, lui, ce qu'il a créé, tel qu'il l'a créé. Il les a créés différents et complémentaires. Ce n'est pas pour les dénaturer après, en leur demandant de ne pas tenir compte de leur nature respective et de leur rôle respectif. Alors que la société d'aujourd'hui, sous prétexte d'égalité, veut faire de l'unisexisme, Dieu, au contraire, veut maintenir la beauté et la richesse de sa création, non pas en faisant s'affronter les sexes, en les plaçant dans une lutte pour le pouvoir, mais en les installant dans le confort de la collaboration entre deux êtres égaux. L'homme et la femme sont égaux, mais avec des missions différentes à assumer. Et c'est pour assurer ces missions qu'ils ont besoin de se coordonner, de se compléter en se soumettant. Et c'est extraordinaire. Alors qu'on a parlé du fait que l'homme est le chef et que la femme doit obéir, se soumettre. Et pourtant, quand vous lisez le verset 21 d'Éphésiens chapitre 5, vous verrez qu'il est parlé du fait que l'un doit se soumettre à l'autre. Donc Dieu, en fait, demande la même chose à l'homme et à la femme. Mais chacun devra l'exprimer selon sa nature propre. Vous m'avez bien entendu ? Dieu demande la même chose à l'homme et à la femme. À l'homme et à la femme, il est demandé en réalité la soumission. On croit que l'homme est le chef et que c'est la femme seulement qui doit se soumettre. Mais en réalité, Dieu demande la même chose à l'homme et à la femme, de se soumettre l'un à l'autre. Mais la façon de se soumettre sera différente selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme. Quand l'homme, en tant que chef, dirige, en fait, il se soumet à sa femme, car c'est pour elle qu'il va diriger, pour elle et pour lui. Donc, pour diriger pour elle à son bénéfice, il est bien obligé de se soumettre à ses besoins, de respecter ce qu'elle est. Et quand la femme se soumet à son mari, c'est alors qu'elle grandit à l'image de Jésus, dont il est dit que tout en étant Dieu, eh bien, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Vous connaissez très bien ces textes-là, en tout cas, ils sont notés, vous pourrez les relire. Il y a quelque chose ici d'extraordinaire, c'est un mystère. C'est seulement lorsqu'on a Dieu dans sa vie que l'on peut ainsi fonctionner en harmonie. Comme dans Ézéchiel, où la grande roue était dans la petite roue, les choses s'imbriquaient sans se heurter. La femme et l'homme, dans le couple chrétien, peuvent s'emboîter, peuvent se coordonner, peuvent s'articuler sans se heurter, sans être en rivalité. Eh bien, c'est possible, cela, quand on est hors du contexte de la plantation Et c'est possible quand on est hors du contexte de la revendication. Mais tant qu'on est dans le contexte de la plantation où c'est l'un qui domine l'autre, ou de la revendication des mouvements actuels où chacun veut défendre son beefsteak parce que je le vaux bien, alors il faut faire le coup de poing, la révolution, on n'y arrive pas. Le seul moyen d'y arriver dans le couple et dans la famille, c'est de mettre en place le système de la chaîne de transmission d'autorité que Dieu a prévu. Dieu, l'homme qui s'inspire de Dieu, la femme qui se colle à son mari pour l'aider à être encore plus près de Dieu, et quand cela fonctionne, les enfants, à leur tour, eh bien, fonctionnent dans le respect des parents. Vous comprenez pourquoi il est important pour les croyants de choisir des personnes qui ont cette même vision. Et c'est pour cela qu'on parle de se mettre sous le même joug, pour être sur le même plan de compréhension du plan de Dieu. Hier, nous étions ensemble et notre dernière prière a été « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Si on va s'inspirer auprès des plans politiques, de stratégie, je dirais, de management, de voir comment on gère la cellule familiale avec des techniques, etc., on a tout faux. Il faut aller vers Dieu et lui dire « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse pour faire cesser les conflits, les disputes ?» Je n'y arrive pas, on est toujours en guerre, on ne se comprend pas, ça ne marche pas. Mais est-ce que dans la cellule familiale, dans ma cellule familiale, est-ce que j'ai mis en place ce mode de fonctionnement où le rôle de l'homme, c'est constamment de se demander « Mais est-ce que je suis au diapason, en phase avec Dieu ? Ou est-ce que je fais à ma tête ? Est-ce que je fais selon mes goûts ? Est-ce que je joue au petit chef, là ? Ou est-ce que je prends directement de Dieu la sagesse pour me permettre de prendre en charge la responsabilité de la famille que tu m'as donnée ? Et d'accepter pour ce faire l'intelligence créatrice de ma collaboratrice qui est mon épouse, qui va m'inspirer, qui avec le sens particulier que Dieu lui a donné, qui deviendra comme Dieu auprès de son peuple, qui va m'aider à devenir un homme de Dieu, qui pourra rester au contact de Dieu. Mais il n'y a que deux personnes converties qui puissent vivre cela. Et vous comprenez que si on va piocher en dehors de la spiritualité, quelqu'un qui n'a pas cette vision des choses, eh bien, on aura tous les problèmes du monde pour s'articuler. On peut s'apprécier, on peut s'aimer, mais ça risque de ne pas marcher, de foirer, parce que le principe que Dieu a donné n'est pas en place. Si vous allez chercher quelqu'un qui n'a pas cette vision des choses, vous êtes en train de faire un pari naïf sur la bonté de l'homme. Or, Dieu lui a fait un pari inverse. Il a dit, à cause du péché, l'homme et la femme ne sont pas bons. En eux se trouvent les ferments de la révolte, les ferments de la division. Et ils sont, depuis le péché, en guerre permanente. Ils s'affrontent en permanence. Et ce qui se passe dans le couple se passe entre les enfants et se passe dans la société. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. Dieu a donc mis en place, dès le départ, un principe de fonctionnement pour juguler, pour réduire, pour stopper la dérive vers l'affrontement permanent. Et ce n'est pas seulement le contrat social de Rousseau qui va y faire quelque chose. C'est la bonne pratique que Dieu nous donne ici, de cette chaîne de commandements où Dieu est d'abord. L'homme reçoit une autorité dans sa famille, autorité bafouée aujourd'hui, tant par la politique que par la société. Mais l'homme a reçu de Dieu une autorité non pas pour s'affirmer, mais pour servir. Et Dieu lui a donné une psychologie pour ça, une physiologie pour cela. Dieu a mis son épouse à ses côtés pour l'aider justement à rester un homme de Dieu. Et Dieu a donné à la femme une psychologie et une physiologie pour ça. On n'a pas le temps ce soir pour développer. Mais Dieu a créé deux sexes, les a équipés pour des missions bien spécifiques. Et tout ce qui va dans le sens de créer du pareil, du même, de l'homo au lieu de l'hétéro, va dans le mauvais sens. Chers amis, nous terminerons en disant ceci. Quand on a pris l'engagement de servir Dieu selon le plan qu'il nous a révélé, puisqu'on a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui ou non? On ne peut pas demander ça, et puis, à côté, faire sa petite cuisine. On a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il nous dit ce qu'il faut faire. Alors, quand on a demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse, et qu'il nous révèle son plan, l'homme ne peut pas faire n'importe quoi chez lui. Il ne peut pas reproduire ce que la société lui indique. Il ne peut pas vivre selon le système de la plantation, selon ce que sa culture lui a coulé dans la tête, sans ne pas mettre une passoire pour savoir qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il jette. Il ne peut pas vivre chez lui en despote, en homme brutal, où tout est pour lui, son argent, il veut tout contrôler. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas être agressif, violent, infidèle, profiteur. Ce n'est pas possible qu'on ait ça chez nous, sur les bancs de l'église, quand on a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La femme, de son côté, ne peut pas être capricieuse, légère, dominatrice, castratrice. Elle ne peut pas empêcher à son homme de grandir et de devenir un homme selon Dieu. Elle doit l'aider à devenir cet homme-là. Chacun restant à sa place dans le système que Dieu a prévu, ça fonctionne. Chers amis, au-delà de la libération que nos grands hommes ont chanté, ont revendiqué avec droit, il nous faut passer de la libération à la révolution. Et cette révolution doit se faire dans nos vies et dans nos familles. On doit imiter et reproduire ce qui se fait dans la Trinité. Parce que le foyer, la famille, est à petite échelle ce qui se passe chez Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passe chez Dieu? Dieu, c'est un nom de famille. De même qu'il y a la famille Intel, la famille Intel, la famille Millard, Dieu, c'est un nom de famille. Et dans la famille Dieu, il y a trois personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne divine a la même valeur. Il n'y a pas plus ou moins de Dieu dans l'un que dans l'autre. Ils s'appellent tous Dieu, n'est-ce pas? Comme dans une famille, chacun s'appelle du nom de famille et il y a une égalité. Donc il y a Dieu le Père qui est l'auteur et qui a le gouvernement, la philosophie du plan du salut. Dieu le Fils qui a accepté de mettre en œuvre le plan du salut par son incarnation et qui a accepté d'avoir ce rôle de serviteur. Comme la femme qui accepte, à l'image de Jésus-Christ, d'être dans ce positionnement-là. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, qui est cette puissance, cette personne divine, qui permettra au plan divin d'être reçu dans le cœur des hommes. Eh bien, on voit comment cela fonctionne dans la Trinité. C'est l'unité la plus parfaite. Faisons l'homme à notre image. C'est l'accord le plus parfait. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de scandale et il n'y a pas de divorce. Pas vrai? Si nous contemplions davantage Dieu pour comprendre qui il est, comment il fonctionne dans l'amour, dans le respect, dans des rôles différents, tout en ayant la même dignité, nous pourrions nous sortir de bien des ornières. Mais nous ne contemplons pas suffisamment le Seigneur pour savoir qui il est, comment il fonctionne. Dieu, il y a trois personnes qui s'articulent en permanence pour venir au salut de l'humanité. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de dissension. Et ils s'aiment. Chers amis, lorsque les enfants viennent dans un couple qui met en place la stratégie divine pour faire circuler le pouvoir, l'autorité, dans la collaboration, dans l'amour, dans le respect, chacun à sa place. Quand les enfants viennent, ils trouvent leur place, ils s'intègrent. ils se sentent protégés dans cette dynamique et aimés. Chers amis, l'évolution des mœurs aujourd'hui nous empêche de voir clair. Mais il s'agit bien d'une révolution qui doit se produire dans nos mentalités. Ce soir, j'ai voulu simplement prendre le temps de poser ces repères. Certainement que ça vous pose question encore, pour certains. Oh, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre ça en place? C'est Dieu qui le demande, c'est Dieu qui l'a institué. Alors, il faut lui demander à lui. Et avec sa grâce et avec sa force, eh bien, on peut mettre en place ce qu'il ordonne. Et alors, ça marche. Il n'y a pas d'autre issue. Ce soir, chers amis, j'aurais souhaité que nous puissions, bien que nous soyons en réflexion, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on cause de cela. Aujourd'hui, on a même peur de se faire houspiller parce qu'on dit que oui, que l'homme est le chef de la femme, de la famille, que la femme doit se soumettre. Mais on a vu ce soir dans quelles conditions, n'est-ce pas? Dans quelles conditions? La femme ne peut se soumettre à l'homme que si ce désir est suscité par sa façon de fonctionner parce qu'il est un homme de Dieu. Et il ne pourra être un homme de Dieu que si la femme l'inspire à le devenir toujours plus. Donc, c'est entrelacé. L'un a besoin de l'autre. Et quand on met ça en place, alors on sort de l'anarchie, on sort de l'oppression que ce système de la plantation, malheureusement, a fait planer sur nos familles, et on casse cette chaîne de reproduction du mal. Vous avez vu toutes les dérives que nous avons mentionnées de la société antillaise à cause de ce qu'elle a vécu et comment ça subsiste encore aujourd'hui? Mais comment on peut casser cela en mettant en place ce que Dieu a prévu? Je voudrais que nous puissions partir d'ici en demandant à Dieu de nous aider, avec son aide, à bien réfléchir, à bien comprendre et à mettre en œuvre ce qu'il a prévu pour que nos familles puissent sortir de certaines ornières. Quels sont ceux qui voudraient vivre à l'abri des séquelles de l'esclavage, du système de la plantation? Que Dieu vous bénisse. Quels sont ceux qui voudraient vivre loin des turbulences, des dysfonctionnements produits par notre culture, que nous chérissons tant sur certains aspects, car tout n'est pas à jeter, loin de là? Quels sont ceux qui voudraient être capables de vivre ce qui se vit au cœur même de la Trinité, qui est prévu, qui soit vécu au sein de la famille, au sein des couples, entre mari et femme, des rapports de précieuse collaboration, où chacun peut s'épanouir en toute liberté? Si vous le souhaitez, nous allons nous mettre debout et priez Dieu pour cela, tous ceux qui le veulent. Nous prierons pour que Dieu nous bénisse. Change la structure de nos familles. Nous évite de perdurer dans des ornières qui nous font tant souffrir, qui nous rendent suspicieux les uns vers les autres, qui nous empêchent de libérer nos émotions, qui nous briment. Nous allons prier. Et je demanderai à Pasteur Gély ou à Frère Dornadin de prier pour nous, pour que nous recevions, pour tous ceux qui le souhaitent, cette bénédiction spéciale.
Seigneur, nous sommes heureux ce soir car tu nous as parlé avec sincérité. Tu nous as montré comment nous avons été formés, comment nous fonctionnons, et nous sommes reconnus à travers tout ce qui a été dit ce soir. Mais tu ne nous as pas fait seulement cela, tu nous as aussi montré dans ta parole comment nous devons faire une révolution en te plaçant Dieu comme le centre de notre vie. Tu nous as rappelé la mission de l'homme, tu nous as aussi rappelé le rôle égalitaire que la femme a pour qu'on puisse être épanoui. Mais nous ne pouvons pas faire tout cela sans la présence de ton Saint-Esprit. Veuille descendre dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et expérimenter à partir de ce soir cette nouvelle manière de réfléchir et de vivre. Nous te prions parce que nous croyons que tu peux faire cela en nous. Augmente-nous la foi afin que nous puissions vivre une vie meilleure dans cette Martinique. Fais-nous du bien et renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.
Je vous demanderai de vous asseoir juste un instant. Et je voudrais vous rappeler, chers amis, que c'est une occasion que l'Église adventiste ici à Smyrne met à la disposition de chacun pour avoir un temps de réflexion, d'échange, de partage et d'aller peut-être un peu plus en profondeur sur des questions intimes, celles de notre vie personnelle, celles de notre vie de famille. Ce serait dommage que cette semaine ait lieu et que nous ne tirions pas tout le jus, tout le non-non qu'il y a dans la parole de Dieu dans cette thématique. Profitez pour revenir, certes mercredi soir, mais s'il y a des personnes qui ont besoin de parler, d'échanger, de présenter de façon particulière leur situation et que nous puissions leur fournir des pistes, des outils, que nous puissions prier ensemble, ne vous privez pas d'être là dès demain à 5 heures, je serai là pour vous attendre, pour que nous puissions aller un peu plus loin. D'autre part, vous avez la possibilité de poser des questions de façon anonyme. Nous y répondrons avec le pasteur Tony Gelli samedi après-midi. Et nous voulons que l'Église et les amis qui viennent avec nous puissent recevoir les directives de la parole de Dieu. Ne venons pas par automatisme, et puis nous avons entendu quelque chose, un discours, mais profitons pour saisir cette grâce, cette opportunité que Dieu met à notre disposition pour aller plus loin dans nos vies. Dieu n'aime pas voir sa créature souffrir. Et il y a trop souvent des souffrances cachées, contenues, brimées, qui nous empêchent de libérer notre potentiel. Nous sommes donc à votre disposition en tant qu'Église. Profitez, posez vos questions, secouez le cocotier pour que tout puisse tomber et que nous puissions véritablement avoir la substance même de l'Évangile sur la réalité de ce que nous vivons. Cessons de chanter des cantiques, de lire des psaumes qui ne nous apportent rien parfois parce que ça reste simplement une incantation. Mais demandons à Dieu, que veux-tu que je fasse ? Et il répondra. Je voudrais vous remercier pour votre présence ce soir et je vous laisserai chanter certainement une strophe du cantique approprié et je vous dis une très bonne soirée.
Avant qu'on se sépare, le directeur de la chorale grise du Réveil informe que les choristes qui n'y a pas répétition demain soir, mais il y a répétition mardi soir à 19h. Pas répétition lundi soir, mais mardi soir à 19h, précise. Nous allons terminer avec ce chant « Je demeure à l'abri de tes ailes ». Bonne soirée à tous.